Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Bonjour mes amis, bienvenue Place du Marché chez vous, et en direct de chez moi, car je suis confiné comme vous bien entendu, et que Place du Marché reste votre marché du dimanche, ouvert à tous, même si j'ai pas trop le cœur à plaisanter, en pensant à tous les artisans, les producteurs, les revendeurs qui ont suivi les restaurateurs et ont dû cesser leur activité pour mettre un coup de frein à cette épidémie. Alors je leur dédie cette émission à tous les personnels des marchés de France. Alors nous allons parler ce matin de ceux qui, malgré le confinement de la nation, malgré l'épidémie galopante et la situation très tendue, comme vous le savez, dramatique parfois, continuent de travailler pour nous nourrir et continuer de le faire dans de bonnes conditions. Je veux parler des agriculteurs français. Comment va notre agriculture ? Avant d'écouter les producteurs sur le sujet, dans quelques minutes, on va d'abord poser la question au ministre de l'Agriculture.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Bonjour Didier Guillaume.
Bonjour Vincent Ferniaud.
Dans votre bureau, j'imagine. Alors, avant de vous écouter sur l'agriculture française, on a appris il y a quelques minutes le décès de Patrick Devedjian, l'ancien ministre et président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, décédé du Covid-19. Alors, une réaction, Didier Guillaume ?
Le virus touche tout le monde, les petits comme les grands, les gens qui sont connus comme les sans-grades. Moi, je veux avoir une pensée pour tout le monde, pour toutes les familles touchées, pour tous les... nos disparus, évidemment Patrick Devedjian aujourd'hui, comme hier Manu Dibango, comme d'autres, mais je pense que je ne peux pas faire la différence entre les uns et les autres. C'est les Français qui sont touchés. Patrick Devedjian est un ancien ministre, est un président du département, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai vraiment une pensée pour lui, pour sa famille, et je veux avoir une pensée aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont touchés.
Oui, et puis ça met un coup d'arrêt dramatique à ces, un peu ces théories d'une médecine à deux vitesses. On l'avait parlé pour les dépistages où on entendait ça et là des gens se plaindre que les personnalités étaient plus facilement dépistées et peut-être mieux soignées que les autres. On voit que le Covid touche tout le monde dans tous
ces... Oui, ce n'est absolument pas vrai. Ça fait partie de ces débuts de complotisme, de ces fake news sur Internet. Nous sommes considérés comme les autres. Moi, ça fait le troisième dimanche que je passe confiné au ministère. Je ne suis pas sorti, sauf pour aller à Matignon il y a 48 heures, je ne suis pas sorti d'ici depuis 15 jours. Et ben, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas de dépistage particulier pour les politiques ou pour les plus riches. Et on laisserait tomber les pauvres. La volonté du gouvernement, c'est de soigner tout le monde, évidemment, et tout le monde étant logé à la même enseigne.
Bien entendu. Alors, monsieur le ministre, vous l'évoquiez à l'instant, vous êtes confiné au ministère où vous avez pratiquement élu domicile, hein, comme vous le disiez.
Mais ce ministère. J'y dors depuis 3 semaines.
Eh ben voilà. Je plains votre famille à qui vous devez manquer, vos fils notamment, hein, qui sont dans la Drôme, sûrement, ou autour. Mais le ministère, comme les autres, est-ce qu'il fonctionne en télétravail, d'ailleurs, ou est-ce que la situation de crise exige la présence de tous à tous les niveaux de l'État ?
Restez confinés, restez chez vous. C'est la règle absolue qui a été donnée par le chef de l'État, par le Premier ministre, hier à la conférence de presse par les scientifiques, pour lutter contre le coronavirus, pour vaincre cette guerre, pour gagner cette guerre, pour vaincre ce virus, il faut rester chez soi. Donc nous avons mis 90% du ministère en télétravail. C'est vrai que pour nous c'est plus facile. Un ordinateur connecté sur le réseau du ministère et on peut travailler, des écrans, une visioconférence. Moi je suis toute la journée en visioconférence, en conférence téléphonique avec mes collaborateurs, avec mes interlocuteurs, avec les responsables de la grande distribution, les responsables de l'agroalimentaire, les responsables agricoles. Donc c'est vrai que pour le coup, pour nous, c'est plus facile. Donc 90% du ministère est en télétravail et nous sommes 4 à être là parce qu'il faut quand même bien quelques personnes qui soient ici. Mais c'est vraiment... La règle est appliquée partout.
Oui, alors cette règle, elle s'applique à tous, évidemment, et vous le redites ce matin. Pourtant, il y en a qui échappent de fait. Justement, ce sont vos ouailles, ce sont les agriculteurs qui doivent continuer le travail pour nourrir la France. Hein. Et depuis la fermeture du salon de l'agriculture, qui laissait vraiment augurer une épidémie à l'ampleur inconnue jusqu'alors, comment aujourd'hui va l'agriculture française, monsieur le ministre ?
Oui, vous avez raison, Vincent. L'agriculture, elle va, à la fois elle va bien, à la fois elle souffre. La fermeture du salon de l'agriculture nous a donné les premiers signes en disant « attention, il va falloir s'organiser ». Le président de la République évoquait les lignes, la première ligne. ceux qui nous soignent, les soignants, le médico-social, c'est très important. Mais la deuxième ligne, elle est tout autant. C'est pas faire tourner l'économie pour faire tourner l'économie, ça n'a aucun sens. Mais il faut que nos ordures soient ramassées. Il faut que les gens chez eux puissent avoir de l'électricité et du chauffage s'il y a besoin. Et il faut se nourrir. Et pour se nourrir, il faut des paysans, il faut des agriculteurs, des agricultrices qui soient dans leur champ. Alors nous avons mis des guides en place. Il faut évidemment des guides de bonne pratique. On ne fait pas n'importe quoi. Les barrières sociales le sont. Il faut vraiment faire attention. Mais il faut continuer à travailler, ramasser des asperges. Il faut semer pour préparer les semis et préparer les récoltes de céréales, par exemple, des moissons de cet été. Bref, ce travail doit continuer à se faire. Alors, il y a la distanciation sociale, il y a les gestes barrières qui doivent être mis en place. Mais si les agriculteurs aujourd'hui s'arrêtaient, demain, il y aurait un problème d'alimentation en France.
Bien sûr. Bien sûr, d'autant que si on s'intéresse un peu aux guerres, puisqu'on est en guerre, hein, comme le disait le président, aux guerres napoléoniennes, on sait que, par exemple, l'intendance, et notamment nourrir les troupes, c'est ce qu'il y a de plus important en dehors du combat. Donc, si les combattants ne sont pas nourris et qu'il n'y a pas les capacités de production pour cela, c'est terrifiant. D'ailleurs, les premiers réflexes de certains Français, monsieur le ministre, ont été... un peu affolés, ils ont fait des stocks de denrées alimentaires en imaginant sans doute une rupture rapide de ces stocks. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur les capacités de production de notre outil agricole dans les semaines et peut-être les mois à venir ?
Moi, je comprends, on va pas se compter d'histoire, je comprends les Français qui ont pu avoir la trouille, qui se sont rués dans les grandes surfaces, acheter des pâtes, du riz, des pâtes à tartiner, enfin bon, bref.
C'est un réflexe. Réflexe de guerre, quoi.
Réflexe de guerre, réflexe normal, si on veut pas manquer, bon, tout ça, c'est une chose. C'est passé globalement maintenant. Nous sommes dans une deuxième phase où il faut continuer à s'alimenter, essayer de s'alimenter de façon plus équilibrée. On ne va pas manger que des pâtes pendant un mois ou je ne sais trop. Donc il faut manger des produits frais, il faut acheter du poisson, il faut acheter des fruits et légumes, c'est la saison qui arrive, il faut acheter de la viande, il faut acheter des protéines, des légumineuses. Bon, tout ça c'est important et aujourd'hui il n'y a pas de risque de pénurie alimentaire. Il n'y aura pas, Vincent Ferniaud, dans notre pays de pénurie alimentaire. Le risque qu'il peut y avoir, c'est dans certains rayons le manque de tel ou tel produit dont on est habitué à manger parce que il peut y avoir une coupure momentanée, mais il n'y aura pas de pénurie. L'agriculture française va tourner et les industries, nos entreprises agroalimentaires, tout notre secteur de l'alimentation va fonctionner, c'est important. Mais pour ce faire, vous le disiez fort justement avant, il faut des bras. En période de guerre, il faut nourrir les troupes et puis il faut nourrir ceux qui sont dans la base arrière. Et donc il est important que l'on trouve des gens qui puissent aller travailler dans les champs, qui puissent aller travailler dans les entreprises agroalimentaires pour transformer nos produits. Le producteur de lait, il produit son lait, la coopérative le collecte. Après, il faut faire des yaourts, il faut faire du fromage. Je produis mes fraises, mais enfin après, il faut que l'entreprise me fasse de la confiture de fraises ou de la compote de fraises. Mais tout ça, ce travail, il doit se faire. Et aujourd'hui, nous avons un risque, je vous le dis, c'est un risque d'absentéisme un peu grand dans toutes ces entreprises qui ferait que le système de chaîne alimentaire tournerait au ralenti. C'est pour cela que cette semaine...
Oui, mais dû à l'épidémie ou dû à une sorte de droit de retrait des travailleurs de la terre ?
Oh, les deux, mais surtout dû à l'épidémie. Vous savez, les gens sont touchés, il y a beaucoup de gens touchés. C'est surtout dans les entreprises agroalimentaires, les PME. Puis vous savez, j'ai deux enfants, et je dois garder mes enfants. Donc je dis à mon patron, excusez-moi monsieur, je peux pas venir parce que je garde mes deux mômes. Donc on a cette petite difficulté, c'est pour ça que cette semaine, j'ai souhaité lancer cet appel à l'armée de l'ombre et pour aider l'armée agricole. Et avec Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, nous avons pris toutes les mesures, il ne s'agit pas d'aller travailler bénévolement, mais nous avons pris toutes les mesures pour que les gens puissent être payés pour faire ce travail dans le cadre du confinement. Évidemment, restons chez soi, c'est la règle de base, mais il faut, avec toutes les mesures possibles, arriver à faire tourner notre alimentation. Je ne parle pas de faire tourner notre économie, c'est une autre histoire. De faire en sorte que nos concitoyens puissent s'alimenter, et vous, mieux que quiconque, vous savez ce qu'est l'alimentation équilibrée et pourquoi c'est important.
Didier Guillaume, d'ailleurs, nous aurons tout à l'heure dans l'émission un fraisiculteur, le président en fait de des fraises de France à AOPN, et un producteur d'asperges dans le Midi, pour parler vraiment des problèmes du terrain. Mais laissez-moi encore vous demander, les épiceries et supermarchés restent ouverts. Le gouvernement a décidé dans le même temps la fermeture des marchés de détail, après celle de tous les restaurants. Ça, c'est une sacrée mauvaise nouvelle pour justement ces agriculteurs qui cherchent à écouler leur production, non ?
Alors, ça peut être une mauvaise nouvelle si ces marchés ne réouvrent pas. Évidemment, la décision du Premier ministre, elle a été très claire, je la soutiens totalement, d'autant plus que moi, je suis pour l'ouverture des marchés de plein vent et des halles alimentaires, je n'ai aucun état d'âme. Mais pourquoi le gouvernement a dû prendre cette décision ? Tout simplement parce que les distances n'étaient pas respectées. Et on sait très bien, hier, le professeur de médecine l'a dit, c'est que chaque citoyen en contamine 3 en 2 secondes. Donc, on ne peut pas faire cela. La décision a été prise, puis des images, excusez-moi de vous dire, Vincent, que l'on a vu à Paris, ces grands marchés parisiens où les gens s'entassaient, ce n'est pas sérieux. Ces gens-là étaient là pour contaminer leurs voisins, enfin pas volontairement, mais de fait. Donc, par principe, les marchés sont fermés, et puis dans les endroits, et moi j'en ai vu beaucoup, hein, je peux témoigner que dans les endroits où les règles sont mises en place, où il y a des barrières, où il y a de la rubalise, où il y a des traits par terre, où on met un mètre entre chaque client, où on espace les étals, ben ces marchés vont réouvrir, il n'y a pas de problème. Vous savez, la GMS a fait d'énormes efforts, moi je veux les saluer, hein. Ils ont mis à l'entrée des vigiles, à l'intérieur, ils ont mis là encore des traits, ils font en sorte, j'y suis pas allé, mais c'est ce qu'on m'a dit, ils ont protégé les
caissiers. On va dire qu'ils ont les moyens, hein, par rapport à des petits marchés.
Ils ont les moyens. Oui, mais le petit primeur, vous savez, qui est indispensable. Moi, chez moi, la mamie, elle descend, elle achète un poireau et elle remonte chez elle parce qu'elle a besoin de manger son poireau. Le lendemain, elle achète 2 patates pour se faire un petit bout de purée. C'est ça, le marché. Le marché, il a une c'est une cohésion sociale et ça permet de nourrir de façon équilibrée nos concitoyens, notamment les plus âgés. Et puis, notre filière fruits et légumes, elle tourne à plein maintenant. Tout à l'heure, je suis sûr que la personne qui fait des asperges, celle qui fait des fraises, va vous dire qu'il y a un risque que tout cela pourrisse sur place si on peut pas buter les asperges ou ramasser les fraises.
Il faut que les maires, parce que la saison, elle... la saison se fiche un petit peu de l'épidémie. Et d'ailleurs, je voulais vous faire un dernier mot avant de vous laisser, monsieur le ministre, un dernier mot sur la pêche française, parce que l'avantage des pêcheurs, on peut dire, c'est que la ressource, au moins, pendant ce temps-là, elle reste dans la mer et elle n'est pas gâchée, alors que les maraîchers, évidemment, et les producteurs de viande qui doivent être au boulot tous les jours, là, il y a un fort risque que la saison passe et que tout soit béné, comme on dit, mis à la poubelle.
Ouais, c'est un vrai risque, il a été jeté déjà beaucoup de produits alimentaires. Vous savez, beaucoup, hein. Moi, Stéphane Layani, le patron de Rungis, me disait qu'ils en jettent des tonnes, ou ils essayent d'en donner, mais y compris dans les associations alimentaires, mais ils en jettent des tonnes.
Et notamment vers le milieu médical aussi.
Eh oui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de faire malheureusement pareil. Il faut absolument éviter ça, et il faut faire en sorte que les choses avancent. La saison culturelle n'est pas la saison du Covid-19, évidemment, donc il faut continuer à pouvoir faire manger nos concitoyens. Et c'est pour ça que moi, je leur demande vraiment à nos agriculteurs, que je veux remercier, à ceux de la deuxième ligne qui font un travail remarquable, aux salariés des entreprises agroalimentaires, de continuer à les travailler avec les gestes qui vont bien. Et vous parlez de la pêche. Le problème de la pêche, c'est qu'évidemment, les poissons restent dans l'eau, mais les pêcheurs restent à quai. Et ça, c'est un drame.
Oui, c'est ça.
Un pêcheur, il doit aller dans l'eau pour pêcher.
Ils n'en vivent pas de leur métier.
Oui, non, aujourd'hui, nos concitoyens mangent moins en moins de poissons. En gros, 50% de la pêche va dans les restaurants. Bon, donc les restaurants sont fermés. Déjà, là, ça met un pet. Ensuite, les gens achètent moins de poissons. Ils ont acheté beaucoup de pâtes, etc. Moi, je pousse justement pour cette alimentation diversifiée. Achetez du poisson, je dis, aux grandes surfaces. Laissez vos marées, vos bancs de marées ouverts, et on m'a envoyé une photo du je ne veux pas faire de la publicité, mais enfin du Leclerc d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques, où le banc de poisson était très achalandé, eh bien les gens achetaient du poisson. Donc c'est tout cela, mais aujourd'hui le drame, c'est que nos amis pêcheurs sont à quai, ne vont plus pêcher parce qu'il n'y a plus d'argent, et c'est catastrophique. Les conséquences du Covid-19 pour la chaîne alimentaire, pour l'amont avec l'agriculture, la pêche, etc. Et puis pour le milieu de gamme avec les entreprises agroalimentaires, les coopératives agricoles qui jouent un rôle sur le terrain, essentielles de transformation, de stockage, il va y avoir beaucoup de dégâts. Mais je peux vous affirmer, Vincent, qu'il n'y aura pas de rupture de la chaîne alimentaire. Nos concitoyens pourront continuer à s'alimenter. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller faire des grandes courses. Moi, si je peux lancer un dernier appel, n'allez pas faire vos courses en famille. N'allez pas à 4 ou 5 derrière un chariot dans une grande surface, dans un marché. Il y a une personne de la famille qui va faire ses courses, point barre. Les autres restent confinés. Il en va de l'avenir de notre société et du nombre de morts que nous aurons ou pas dans les jours qui viennent. On achète ses courses pour 2 ou 3 jours et puis on y revient 2 ou 3 jours après ou une semaine après. On ne fait pas des stocks avec des caddies pleins et on achète de produits diversifiés, des produits lactés, on achète du poisson, on achète des fruits et légumes, on achète des œufs, on achète de la viande, enfin on achète ce que l'on veut, mais on achète diversifié. L'alimentation, c'est la base de la santé. Aujourd'hui, la santé, on en parle tous les jours et la santé de nos concitoyens est essentielle, mais en fonction de ce que nous mangeons, eh bien, notre santé va mieux ou pas.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Je souhaite que vous vous nourrissiez bien dans votre grand ministère tout vide. Et peut-être vous mettrez vos tutos de recettes bientôt sur les réseaux, si vous avez un peu de temps, mais ça m'étonnerait quand même. Et on se retrouve, j'espère, d'ici quelques semaines pour faire le point ensemble. Et je vous souhaite, comme à tous ceux qu'on a au téléphone en ce moment, de prendre soin de vous, de votre santé. Voilà, merci beaucoup.
Aux auditeurs de Sud Radio.
Ouais, merci, merci.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour, place du marché, depuis chez moi, en direct, comme vous tous, je suis confiné, nous étions à l'instant au téléphone avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, qui lui aussi est confiné dans son ministère et on le comprend bien en ce moment. Et il y a du travail, hein, ça ne manque pas. Alors, il nous disait deux choses. Il nous disait d'abord que les marchés vertueux, entre guillemets, vont sans doute réouvrir, ceux qui ont des règles de sécurité sanitaire suffisantes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, toujours cet appel à l'aide, aux bras des citadins, peut-être pas des citadins, mais en tout cas de ceux qui ont le temps et qui sont sur des sites où il y a de l'agriculture très vivace, pour venir en aide à nos agriculteurs qui vont bientôt manquer sans doute de bras au moment de la cueillette. Et justement, puisqu'on parle de la cueillette et de la récolte, je suis au téléphone avec Xavier Mas. Bonjour Xavier Mas.
Oui, bonjour.
Alors Xavier, vous êtes le président de l'AOPN, c'est l'appellation d'origine protégée nationale Fraises de France, hein, c'est cela ?
Oui, en fait c'est l'association des organisations de producteurs de Fraises de France.
D'accord, ok. L'association. Alors, les Fraises de France, ça regroupe à peu près 40% de la production de fraises en France, et c'est un outil de promotion de la fraise française.
C'est ça, un outil de promotion à la fois et de recherche, parce qu'on finance également des programmes de recherche et d'expérimentation, et également de création variétale.
D'accord. Et vous êtes aussi impliqué chez Clair et Vert, qui est en fait un regroupement de plus de 200 coopérateurs dans le sud de la Dordogne et Lot-et-Garonne, hein, entre Lot et Garonne justement, de producteurs de fraises, plus de 200 producteurs.
C'est ça, oui. C'est un regroupement de deux coopératives qui se sont associées pour commercialiser ensemble notre production.
Alors, on le disait à l'instant avec le ministre, évidemment, la saison, elle bat son plein, et notamment avec la fraise, hein, parce que traditionnellement, c'est vraiment l'arrivée de ce fruit au printemps. Quel est l'état d'esprit en ce moment chez les producteurs de fraises ? Ça doit être difficile.
Oui, effectivement, c'est difficile. On a connu, on est aujourd'hui en pleine production de notamment notre variété la plus précoce et la plus connue, Garriguette. Donc, c'est vrai qu'on est en pic de production depuis maintenant bien une semaine. Le phénomène majeur qu'on a connu ce début de saison, en fait, ça a été, notre ministre l'a très bien expliqué, hein, lors des premiers jours du confinement, Les consommateurs se sont rués dans les magasins pour faire des stocks de produits et de denrées non périssables.
Produits secs et conserves.
Hein, c'est ça. Au détriment, bien sûr, des produits frais. Et c'est vrai que ces premiers jours, pour nous, de récolte, ont été très compliqués, puisque effectivement, la fraise et la garriguette en particulier a été quand même assez délaissée pendant ces premiers jours, quoi.
Oui, d'accord. Et alors, du coup, bah, c'est assez naturel que c'est difficile de reprendre un flux, d'autant plus que avec la fermeture des marchés, qui est évidemment un débouché pour vous, la restauration et les pâtissiers, hein, il ne faut pas les oublier, les pâtissiers boutiques, vous avez un réseau de distribution qui a fondu comme neige au soleil.
Ouais, ce réseau de distribution, effectivement, c'est à peu près 30% de nos volumes que l'on écoule à travers ces réseaux-là. Donc, je vous cache pas que ça a été quand même assez compliqué de se retourner. Qui plus est, on a été, la fraise d'importation, et notamment espagnole, était en pleine production. Donc, les réseaux de distribution classiques, la grande distribution, étaient quand même majoritairement tournés vers ces productions-là.
Et vous voulez dire déjà gorgé de fraises espagnoles avant même l'arrivée de la fraise française, quoi.
C'est ça, mais traditionnellement, c'est assez habituel, hein, y a rien d'exceptionnel.
Il y a une bascule qui se fait quand même au début du printemps.
Oui, tout à fait. Il y a une bascule qui s'opère, mais elle s'opère habituellement aux alentours du 15 avril, donc un peu plus tardivement.
D'accord.
Mais bon, à circonstances exceptionnelles, je voulais dire, il y a eu une réaction, un dialogue qui s'est instauré avec nos clients, hein, les distributeurs, les grands distributeurs français, qui ont quand même pris conscience qu'on était gravement en danger au niveau de la filière fraise, et qui ont basculé majoritairement aujourd'hui sur le produit d'origine France. Ouais.
Et ça, toute enseigne confondue, vous pouvez dire aujourd'hui, en fait, les fraises de France sont largement représentées. C'est pour schématiser, on peut dire que la grande distribution française n'achète plus de fraises espagnoles.
Aujourd'hui, on a cet engagement-là. Effectivement,
c'est un engagement qui est suivi des faits.
Alors, ça a été suivi des faits. Il faut savoir qu'en fin de semaine dernière et en début de la semaine qu'on vient de passer, on a quand même détruit de la marchandise. Suite à cet engagement, depuis mercredi, effectivement, majoritairement, toutes les enseignes se sont mises sur l'origine France. Et effectivement, on est sorti de cette escalade. Aujourd'hui, la grosse interrogation...
Excusez-moi, Xavier, mais vous dites la grande distribution s'est mise sur les fraises de France, mais à des prix raisonnables. Vous n'avez pas eu à négocier, ils vous ont pas serré le kiki.
Écoutez, on n'a pas eu besoin je veux dire, à un moment donné, les discussions ne portaient même plus sur le prix. On est aujourd'hui en crise conjoncturelle, c'est-à-dire qu'on est 25% en dessous du cours de la moyenne des 5 dernières années, donc au stade d'expédition, hein, j'entends. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du consommateur, si effectivement l'ensemble des enseignes jouent le jeu, le produit sera à disposition des consommateurs à des prix tout à fait accessibles, quoi.
Tout à fait accessible, parce que on espère que la distribution, la grande distribution, rogne un petit peu ses marges pour proposer au moins un produit à un prix acceptable. Bon, ça c'est le problème de la distribution, et on l'a bien compris. On espère que les marchés réouvrent de manière à ce que les revendeurs puissent proposer vos fraises. Une autre question, c'est le ramassage en ce moment. Le ministre de l'Agriculture l'évoquait il y a quelques minutes. Le ramassage, c'est compliqué. Les fraises, ça se fait à la main. Hein, et donc, il faut de la main-d'œuvre.
Tout à fait, c'est la seconde problématique à laquelle on est confronté, et on va être confronté de des façons dans les jours à venir, parce qu'on est qu'au tout début de la saison de fraises, hein, puisqu'elle va durer jusqu'au mois de juin.
Et on peut imaginer que plus la saison avance, moins il y aura de main-d'œuvre, évidemment touchée par cette épidémie pour certains.
C'est ça. Donc, alors, on a effectivement, habituellement, historiquement, on fait appel pour une partie à de la main-d'œuvre d'origine étrangère. Je pense à des salariés qui viennent de Pologne, d'Espagne, du Portugal et même parfois du Maroc. Aujourd'hui, il faut savoir que même à l'intérieur de l'espace Schengen, les frontières sont quasiment bloquées, les gens ne circulent plus, quoi. Donc, ce sont des gens qui ne viendront pas sur nos exploitations, on le sait maintenant.
Vos ramasseurs habituels.
Tout à fait. Alors, on a une population des salariés, des locaux qui sont déjà sur nos exploitations, et effectivement, les choses se passent avec toutes les mesures de précaution et sanitaires et de barrières sanitaires qu'on met en place sur nos exploitations pour leur garantir, parce que c'est quand même le premier élément important pour nous aussi, c'est de leur garantir une sécurité sanitaire la plus optimale possible, j'allais dire. Mais par contre, contre, on va manquer très rapidement de main-d'œuvre sur les exploitations. Et ça, c'est très clair. Donc, c'est pour ça que
l'appel est lancé. On l'a compris que le ministère relaye cela pour trouver des, on va dire, des liens entre les bras des Français et la terre des exploitants. Merci Xavier Mas. Je vous rappelle que vous êtes le président d'AOPN Fraises de France. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde fasse un fraisier chez soi, puisque tout le monde cuisine à la maison. Il y a tous les tutos qu'il faut sur le net et sur les réseaux sociaux pour se faire un fraisier avec des belles fraises de France qu'ils trouveront. Et ça, c'est inédit, largement dans la grande distribution, mais allez faire votre marché tout seul et masqué. Merci beaucoup Xavier, et je vous souhaite une belle saison. On fera le point ensemble. Allez mes amis, on se retrouve dans quelques minutes avec un producteur d'asperges dans le Gard, parce que ça aussi c'est un beau produit de saison qui vit un péril certain.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour, place du marché, pour faire un point ensemble sur l'agriculture française au travers de l'expérience de terrain de nos agriculteurs, de nos maraîchers et de nos producteurs. Et puis, tout à l'heure, le commentaire que nous avons eu du ministre de l'Agriculture, je sais, est à la manœuvre et essaye de trouver des solutions pour les débouchés de notre belle agriculture et surtout pour, comme il nous l'a dit tout à l'heure, certifier aux Français qu'il n'y aura pas de rupture de stock, que les Français seront nourris pendant toute cette période de crise. Pour ne pas ajouter du malheur au malheur. Mes amis, je suis en ligne avec Serge Amouroux, qui est producteur d'asperges dans le Gard. Bonjour Serge Amouroux.
Bonjour, bonjour Vincent, bonjour à tous.
Avec votre bel accent de la Camargue, nous on adore ça, ça met du soleil dans l'émission. Alors vous êtes producteur d'asperges à côté d'Aigues-Mortes, c'est ça?
Oui, je suis situé à la sortie d'Aigues-Mortes, route des Saintes-Marie-de-la-Mer.
Tout ah ouais, là on est carrément à la pointe du Rhône, quoi, vraiment dans le delta. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était un... Cela dit, il y a des sables, hein, donc j'imagine que pour les asperges, c'est profitable. Serge Amouroux, on entendait à l'instant votre collègue des Fraises de France, qui est un autre grand produit de saison, Xavier Mas, s'exprimer et dire que le problème... Alors, il y a bien sûr des problèmes de distribution pour la fraise qui sont, à mon avis, semblables à ceux de l'asperge. Est-ce que la grande distribution s'est engagée à acheter des asperges françaises avant tout?
Oui, ça y est, depuis quelques jours, là, la grande distribution, et je les remercie d'ailleurs, se sont mis sur nos produits, que ce soit la fraise, l'asperge, les produits de saison. Et là, disons qu'on peut, reprendre espoir, oui, on avait commencé à avoir du stock, on commençait à arrêter les aspergeries, vu qu'on voyait qu'il y avait plus de marché, les restaurants se sont fermés. Donc on s'est remis à espérer et je remercie encore la grande distribution de venir à notre aide.
Vous disiez arrêter les aspergeries, ça veut dire que on retire la butte, on retire la terre, on casse les turions. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter la production d'asperges?
Ben pour arrêter, notamment nous, on est producteurs essentiellement d'asperges blanches dans le secteur des sables d'Aigues-Mortes. Mmh. Donc on avait mis des paillages plastiques pour
buter, c'est-à-dire qu'on entoure de terre, hein, pour protéger du soleil, voilà, c'est ça?
On monte la terre, l'asperge. Mmh. L'asperge monte dans la butte et dès qu'elle apparaît, nous on l'accueille. Disons c'est pour ça que même la pointe de l'asperge est toute blanche. Elle ne voit pas le soleil.
Et pourquoi, excusez-moi Serge Amouroux, moi je ne suis pas technicien de l'asperge, mais pourquoi ne pas la laisser pousser, quitte à ne pas la ramasser, et plutôt freiner sa pousse?
Disons que nous, on pensait que c'était terminé, et on faisait comme d'habitude, comme si on était en fin de saison. Cette butte, il faut la...
En reposant la terre.
Voilà, on redéfait la butte, on remet à plat, parce que nous, c'est notre façon de travailler. Après, bon, l'asperge, elle pousse, elle se ramifie, elle verdit, après on la garde verte le plus longtemps possible pour qu'elle fasse ses réserves pour l'année suivante.
Et puis ça fait des asparagus pour les fleuristes. Alors, Serge Amouroux, je peux vous demander quelle est votre production cette année par rapport à une année normale, en pourcentage?
Bon, là, pour l'instant, on était à 10-15% de notre production, à peine. Aïe, aïe. On a eu de la chance de démarrer précocement, mais c'est pas les kilos qu'on a fait au début, au mois de février et au mois de mars, qui ont fait des tournages, quoi. Parce que bon, il y avait des nuits froides, les journées étaient quand même, bon, pas très chaudes. Donc c'était une pousse, elles ont commencé à pousser aux alentours du, on va dire à peu près vers le 20 mars, elles ont commencé à produire davantage.
Et dites-moi Serge, mais une asperge, c'est pas comme le blé, hein, c'est pas la moissonneuse-batteuse que ça se récolte, c'est à la main avec une gouge à chaque asperge.
Ben oui, là, chaque hectare d'asperge, il faut à peu près 2 personnes, et c'est vrai que ça se ramasse manuellement, une par une, et une personne qui ramasse à l'heure doit arriver à ramasser entre 7 et 10 kilos à l'heure. Donc c'est assez fastidieux comme travail. En plus, bon, il n'y a pas que l'aspect de ramasser, il faut reboucher pour remonter la butte. Sinon, si vous ne rebouchez pas, vous laissez des grands trous et au bout de 10 jours, il faut reformer la butte. Non, ça ne pourrit pas, c'est qu'il vous faut reformer la butte après. Et vu que nous, on est dans des sables très légers, quand le Mistral attaque, il nous fout tout en l'air, quoi, hein, pour parler vulgairement.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est une catastrophe. Alors, évidemment, vous aviez vécu la fermeture des restaurants comme une punition déjà. Celle des marchés a dû vous mettre carrément à terre. Mais c'est pas grave, vous continuez. Peut-être cet espoir de voir à nouveau les Français aller vers le produit frais.
Il y a le confinement aussi, c'est-à-dire qu'on a une vente. Oui, vous m'entendez? Allô? Allô?
Oui, je vous entends.
Voilà. Oui, je vous entends. On fait de la vente directe à la ferme. Ah, on fait de la vente directe à la ferme. C'est vrai que ça s'est pas mal ralenti. Hein. Les gens de la commune peuvent venir, mais après, les gens des alentours, le Gros du Roi, Port-Camargue, la Grande Motte, ne se déplacent plus. Voilà, vu le confinement.
Et évidemment, confinement oblige, on ne peut pas aller trop loin de chez soi, même pour acheter les belles asperges de Serge Amouroux. D'ailleurs, dans une dizaine de minutes, on sera avec Nicolas Machard, le fondateur de Pour de Bon, qui est un des sites d'e-commerce qui met en relation des consommateurs avec des paysans par la livraison à domicile. Merci Serge Amouroux. Écoutez, je vous souhaite une belle saison, la moins impactée possible, et surtout, prenez soin de vous et de vos proches et de ceux qui travaillent chez vous, hein, parce qu'on a tous besoin de ça en ce moment.
Vincent, à bientôt.
Allô, allô.
Oui,
à bientôt.
Vincent, merci.
J'ai en ligne Stéphane Méjanès. Bonjour Stéphane.
Bonjour Vincent, merci de nous accueillir.
Oh bah, il n'y a pas de problème. Stéphane, vous êtes journaliste, vous êtes déjà venu dans l'émission, on avait parlé ensemble du Michelin et de la sortie de votre dernier livre. Vous êtes journaliste alors, pour de nombreux organes de presse, Food, Pâtisserie, L'Obs, etc. Donc vous êtes journaliste gastronomique, hein, c'est comme ça que ça se dit, gastronomique ou culinaire. Mais là, je vous ai demandé d'être avec nous pour une initiative absolument magnifique que vous avez eue avec Guillaume Gomez, le chef de la présidence de la République. C'est les chefs avec les soins. C'est-à-dire, au fond, vous avez décidé, avec un collectif de chefs, le dimanche, donc c'est aujourd'hui et c'est votre jour, et vous devez être au four et au moulin, de nourrir le personnel soignant avec les chefs qui justement, manquent un peu de boulot en ce moment.
Absolument. Alors, je ne suis pas au four, vous le savez, il vaut mieux que ce soit les chefs.
Mais de chez vous.
Absolument. Non, mais effectivement, alors, on a d'autres livraisons en semaine, si on a le temps d'en parler, mais effectivement... l'opération est partie dès le départ avec Guillaume et avec TikTok, donc qui est le partenaire essentiel en termes de coordination et de logistique, une start-up spécialisée dans la livraison de repas de chef aux entreprises.
De repas de chef, oui.
Voilà. Donc on a commencé vendredi dernier, enfin pas le dernier, celui d'avant, premier dimanche, mercredi dernier, et aujourd'hui c'est vraiment la grosse journée. Le mouvement a pris une ampleur formidable, grâce à vous aussi d'ailleurs, tous les relais. Que nous avons eu dans la presse avec mes consoeurs et confrères et partout sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous sommes en train, voilà, c'est parti, hein, les chefs ont préparé tout pour 9h45 ce matin et nous sommes en train de livrer 1200 repas à Paris et 1500 dans toute la France, dans 6 villes de France en l'occurrence, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Valence, Angoulême et Caen.
Voilà, et en milieu hospitalier, on est d'accord.
Hospitalier, alors le principe, effectivement, il ne s'agit pas de nourrir, hein, j'insiste vraiment là-dessus, on ne va pas nourrir tous les soignants, c'est un autre sujet, c'est un vrai sujet, et j'espère que l'administration en prend sa part et l'État aussi. Et puis d'autres associations peuvent produire des repas en volume plus conséquent. Nous, c'est vraiment l'idée du réconfort, c'est de créer un lien entre un chef et un soignant, et que le soignant puisse même mettre un nom, un visage sur quelqu'un qui a cuisiné pour lui. On le voit dans les réactions sur les réseaux sociaux, les gens postent des photos. Il y a un des chefs qui a glissé mercredi dernier un dessin de sa fille dans la livraison, et on l'a retrouvé le dessin ensuite sur un réseau avec une soignante. Donc c'est vraiment une chaîne de solidarité, mais vraiment pour du réconfort. Il s'agit de cibler avec la PHP, mais pas que. Au départ, c'est effectivement parti avec la PHP, qui nous demande de livrer le dimanche dans certains services bien ciblés, que eux valident, et nous on livre 50, 60, 90 repas par service, ça dépend des configurations, et voilà, des bons plats, c'est entrée, plat, dessert, dans des conditions évidemment parfaites de sécurité, et puis avec des recommandations pour le type de plats qui conviennent aux soignants.
Bien sûr,
C'est vraiment le geste, comme les gens, et on le fait tous, quand on peut d'applaudir à sa fenêtre.
Oui, puis là, en ce moment,
qui offre un plat bien cuisiné, bien dressé aux soignants.
En ce moment, tout le monde cuisine à la maison, Stéphane Méjanès. Les seuls qui ne peuvent pas cuisiner sont ceux qui sont sur le front, et évidemment notre personnel soignant. Donc, on cuisine pour eux en quelque sorte. Ceux qui n'ont pas le temps d'être confinés, de cuisiner pour soi.
C'est exactement ça. C'est un peu parti de cette idée que j'étais pas le seul à l'avoir eu, ni le premier sans doute, mais j'avais écrit une lettre ouverte le mardi 17 mars en soutien au restaurant, au chef, en disant vous laissez pas abattre, réfléchissez à l'après, mais surtout, peut-être, je suis sûr même que vous êtes disponible, ce que vous aimez faire par-dessus tout, c'est cuisiner, vous pouvez plus servir des clients, les recevoir chez vous, peut-être que c'est possible de faire des bons plats pour les soignants et améliorer un peu l'ordinaire de l'hôpital de temps en temps, donc pas tous les jours, on aimerait pouvoir en faire beaucoup plus, mais on est limité forcément, et on veut pas non plus perdre le contrôle, la maîtrise de cette opération, donc on est une des opérations parmi d'autres, mais avec cette idée de ce lien entre des chefs et des soignants.
Génial, merci Stéphane Méjanès d'avoir mis votre talent de communicant au service de cette belle action. Il y en a beaucoup, des initiatives qui fleurissent en France pour câliner nos médecins. Ouais. Et le personnel médical dans son ensemble.
Absolument.
Oui, bien sûr, Stéphane.
Merci, je suis désolé. Mais vraiment, là, on est dans cette phase où c'est une opération entièrement bénévole. Hein, c'est une grande chaîne de solidarité bénévole de tous les acteurs, des fournisseurs, des transporteurs, des chefs, des livreurs et de TikTok qui coordonnent. Donc, il ne s'agit pas évidemment de gagner de l'argent dans cette histoire, au contraire, certains en dépensent.
Bien sûr.
Moi, c'est pas mon cas, j'ai besoin de rien.
Ah oui. Bien.
Mais je toucherai pas d'argent évidemment dans cette histoire, mais les promesses de dons commencent à arriver, des gens s'intéressent à l'opération. Donc on est en train de se structurer pour pouvoir accueillir des dons. Donc si vraiment des grandes entreprises nous écoutent, je lance un appel pour que soulager toute cette chaîne, pour que chacun puisse contribuer. Est censé s'épuiser, parce que chacun aussi a son entreprise à faire durer, à faire tourner. On est vraiment ravis d'accueillir.
Il y a un site ou un hashtag ?
Il y a le hashtag,
on les voit
facilement. Voilà, c'est les chefs avec les soignants. Moi, je suis Stéphane Méjanès, on me trouve facilement sur les réseaux. Et puis, on a communiqué pas mal. Donc,
D'accord.
Stéphane. Des appels, n'hésitez pas.
Votre marché vous est offert ? Les marchés de produits alimentaires, où vous avez besoin aussi de denrées ?
On prend tout ce qui est possible. Mais aujourd'hui, nous avons des partenaires solides qui donnent toutes les denrées. Tout est gratuit aujourd'hui, pas d'argent dans le circuit, mais si on veut qu'il perdure, et on le souhaite jusqu'au bout du confinement, et malheureusement il semblerait qu'on soit pas sorti de l'auberge, il faudra forcément renouveler un peu les forces pour que certains puissent se reposer, puissent penser aussi à leur entreprise, et que d'autres acteurs viennent par des dons de services, de denrées, mais aussi des dons d'argent probablement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on a déjà reçu des propositions et on va faire en sorte que tout se passe bien et qu'évidemment chaque euro reçu soit dépensé dans l'assiette des soignants. Voilà.
Merci Stéphane Méjanès. Donc je rappelle les chefs avec les soignants, voilà un appel aux dons. Vous embrasserez de loin et du coude Guillaume Gomez, le chef de la présidence de la République, qui est très investi aussi dans cette opération, et tout le personnel soignant à travers vous, évidemment, qu'on aime beaucoup plus fort que d'habitude. Bonne journée Stéphane, et bonne journée au travail parce qu'il y a de la livraison. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour parler d'autres réseaux de distribution.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez mes amis, de retour place du marché en votre compagnie, confinée comme vous l'êtes, comme moi d'ailleurs, en direct de chez moi. Et je reçois aujourd'hui des acteurs du monde agricole. On était tout à l'heure avec le ministre de l'Agriculture qui nous donnait les bonnes nouvelles qu'il peut, bien entendu, pour dire qu'il n'y aurait pas de rupture de stock et que le ministère est en charge de tous ces agriculteurs et essaye de trouver des solutions de manière, d'une façon, je dirais, commerciale, pour des débouchés évidemment pour la production agricole, mais surtout aussi des solutions pour que les producteurs trouvent de la main-d'œuvre pour leur production. Et notamment, on était avec des producteurs de fraises et d'asperges qui sont des produits de saison et éminemment demandants en matière de main-d'œuvre puisque ça se ramasse à la main. Et puis à l'instant, Stéphane Méjanès, le journaliste bien connu, nous parlait de cette initiative qui met en rapport des menus de chef livrés gratuitement au monde hospitalier. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Et moi, je voulais parler justement d'outils de distribution qui sont en train de changer. Et j'ai en ligne Nicolas Machard qui est avec moi. Bonjour Nicolas.
Bonjour Vincent.
Alors Nicolas Machard, vous êtes le fondateur de Pour de Bon, qui est un site de e-commerce. Moi, j'ai envie de dire une sorte de plateforme paysanne, puisque pour faire simple, vous mettez en relation... dans une distribution évidemment livrée à domicile, des producteurs et des consommateurs.
Tout à fait, exactement. On est, je dirais, la grande place du marché, puisqu'on a cette capacité à fédérer autour de notre place de marché plus de 300 producteurs aujourd'hui, ce qui représente plus de 8000 produits frais. Et on a cette capacité à pouvoir livrer l'ensemble de ces produits partout en France et à plus forte raison en ce temps de crise.
Oui, alors Nicolas, évidemment, vous n'êtes pas seul et les initiatives de ce genre et les start-up fleurissent. Moi, j'ai envie de parler de La Ruche qui dit oui, d'épicerie, de culinaries. Enfin, voilà, il y a plein de sites aujourd'hui qui font ce métier de trouver des solutions alternatives au fait qu'on est confiné et qu'on ne peut pas sortir faire son marché. Et puis, de toute façon, la livraison à domicile depuis 2-3 ans en matière d'alimentaire, elle a explosé. Donc, vous êtes tout à fait dans le trend. Et je dirais que cette crise sanitaire majeure qui met à mal beaucoup de monde vient mettre en lumière l'importance d'avoir un réseau de circuits courts favorisé par ce genre d'initiative.
Exactement. Enfin, juste pour rappeler, en fait, ce que fait Pour de Bon, en fait, nous, on a ce rôle, on fait trois choses. On va d'abord sélectionner les meilleurs producteurs à travers toute la France. Ensuite, on va leur créer des boutiques en ligne pour leur permettre de vendre en direct, donc réellement en direct. Et on va valoriser leurs produits et leur savoir-faire sur cet espace digital. Et ensuite, on va assurer toute la logistique et la relation client pour ces producteurs. C'est-à-dire qu'on va, on va vraiment au-delà des acteurs que vous avez signés, puisqu'on les prend vraiment par la main et on va leur permettre de vendre réellement en direct. Donc dans une situation comme celle que l'on vit là pour le moment, c'est vraiment une opportunité pour eux qui ont généralement l'habitude de vendre sur les marchés ou de vendre à la ferme, et bien de trouver un réel relais de distribution en vendant directement partout en France leurs produits, puisqu'on va assurer à la fois
donc
la collecte.
Si je comprends bien, Nicolas, pour faire la différence, excusez-moi, mais j'essaye de comprendre bien. Vous êtes plus qu'un site de e-commerce, vous êtes un e-marché, en fait, hein, puisque c'est comme si chaque producteur, vos 300 producteurs, avaient un petit stand dans un marché virtuel.
Exactement, et c'est eux qui vont assurer eux-mêmes la relation avec le client. Donc si le client a besoin d'avoir des questions sur les techniques de production, d'élevage de nos producteurs, il les pose directement aux producteurs. Et s'ils ont besoin de conseils pour préparer leur volaille ou leur poisson, ils la posent aussi directement aux producteurs. Nous, on est le chef d'orchestre de tout ça. On va permettre de mettre en musique cette relation entre le producteur et le consommateur. Mais in fine, la relation...
Le portail et le distributeur.
Exactement, voilà.
Nicolas, dans ces temps difficiles, et notamment en temps de confinement sévère, hein, qui a été prolongé hier pour 15 jours par le Premier ministre. Mais on sait que ça va aller de 15 jours en 15 jours. Hein. Je crois qu'il veut nous l'annoncer petit à petit. Il ne veut pas nous dire tout de suite, ça sera un mois et demi. Dans ces temps difficiles, la livraison, ça n'est pas si simple, hein, la logistique, parce que ce sont des gens qui travaillent. D'ailleurs, on rend hommage aux routiers et aux livreurs dans toute la France. Est-ce que vous avez des exemples de livraison qui se passent bien? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez des retours? Comment ça se gère en temps de crise?
Alors, c'est forcément assez compliqué, mais je dois également saluer le travail remarquable que fait notre prestataire qui est Chronofresh, puisque Chronofresh, oui, en fait, c'est une filiale de Chronopost et qui est adossée sur tout le réseau de Chronopost. Donc, en fait, grâce à Chronofresh, on vient utiliser un réseau déjà existant, un maillage déjà existant, donc d'agences réparties à travers toute la France, qui ont à la fois cette capacité d'aller collecter des producteurs partout en France, mais aussi cette capacité à aller distribuer les produits ensuite directement chez le consommateur. Donc, aujourd'hui, la promesse de livraison qu'on a sur Pour de Bon, c'est de faire du moins de 24 heures en respectant la chaîne du froid.
Ah oui.
À partir du moment où le produit part de chez le producteur et arrive chez le consommateur. Donc effectivement, ce système d'expédition, en fait,
cette promesse que vous êtes tenir. Ouais.
Voilà, cette promesse est totalement tenue en temps de crise. Bien évidemment, ce serait vous mentir que vous dire que ça se passe aussi bien que d'habitude. Pourquoi? Parce que certaines agences qui ont subi en fait de plein fouet le virus, donc ont dû se fermer temporairement. Donc à partir du moment où une agence se ferme temporairement, bah c'est des difficultés de collecte auprès de nos producteurs, c'est des difficultés de distribution. Mais ça, nous on est présents pour accompagner le producteur et toujours en lien avec le transporteur pour prévenir nos clients et leur dire attention, on va avoir un jour de retard. Bien évidemment, les colis sont maintenus en chambre frigorifique jusqu'à ce qu'ils soient livrés à son destinataire.
Nicolas Machard, encore un mot. Quel style de produit est-ce qu'on trouve chez vos producteurs, chez vos 300 producteurs? De tout, légumes, viande, produits, je dirais, frais. Qu'est-ce que c'est le cœur de votre métier?
Alors, à 85%, ce sont des produits frais, donc on va trouver essentiellement de la viande, du poisson et des produits de maraîchage. Donc, ça, je dirais que c'est le gros de notre activité. Aujourd'hui, je vous cache pas que sur la partie maraîchage, on a quelques soucis d'approvisionnement parce que nos producteurs se sont tous fait littéralement dévaliser. Il faut savoir qu'habituellement, on fait quelques centaines de commandes par jour sur Pour de Bon, et là, on en fait quelques milliers. Donc, on a multiplié par 12 notre activité, ce qui fait que nos producteurs, eux, pour le coup, alors, se réjouissent de pouvoir écouler tout leur stock grâce à nous, mais certains, en moins de 2 jours, à partir du moment où ils mettent leurs produits en ligne, en moins de 2 jours, ils sont dévalisés. Vous parlez d'un producteur...
Je vous le souhaite, Nicolas Machard. Nicolas, vous avez bon dans le nom de votre société, Pour de Bon. J'ai envie de croire qu'il y a quelque chose, malheur est bon, dans cette situation de crise. Juste un dernier mot, le sentiment que des gens qui n'auraient peut-être pas utilisé ce moyen, la livraison, et continueraient à faire leur marché, forcés de le faire en ce moment, garderont, en tout cas pour une proportion d'entre eux, cette bonne habitude de s'adresser directement aux producteurs, après, quand la crise sera passée?
Allez, j'en suis convaincu. On le voit, nous, ça fait 3 ans qu'on existe et on voit qu'à chaque fois qu'un consommateur utilise notre plateforme, il est totalement fidélisé et acquis à notre cause. Parce qu'il retrouve ce lien avec le producteur. Et là, c'est ce qu'on espère avoir de cette crise. Enfin, au moins, les retombées positives, c'est que le consommateur prenne conscience qu'il a la possibilité d'acheter directement auprès du producteur et de recréer ce lien, en fait, qui a été perdu ces dernières décennies.
Nicolas Machard, oui, je le souhaite aussi. En tout cas, vous saluerez pour moi, ma camarade, votre marraine. On a le droit de dire qui c'est?
Bien sûr, oui, Julie Andrieux.
Julie Andrieux, qui est la marraine de Pour de Bon. Vous la saluerez, vous l'embrasserez pour moi de loin, toujours avec le coude, comme on fait en ce moment. Et espérons effectivement que les bons comportements d'achat, ils vont se faire jour là au cours de cette crise et que ça perdurera par la suite. Moi, je relaierai évidemment les initiatives comme celle-ci et les sociétés qui font du bon boulot. Merci beaucoup. Je crois que je suis en ligne avec une autre de mes camarades, c'est Nathalie Frangirma.
Bonjour Nathalie. Vincent, tout va bien?
Comment ça va Nathalie? Confinée chez vous également?
Ah bah bien évidemment, confinée en Normandie.
On fait
le tour de toutes les pièces de la maison.
C'est un coin
là
qui est moins touché. Hein. Il faut bien le dire en ce moment.
Pour l'instant, alors, effectivement, avec Centre de Val-de-Loire et Pays de la Loire, effectivement.
On le souhaite.
Alors,
donc ce matin, une spéciale émission d'une heure et demie avec vous.
C'est ça, on va se balader dans la France entière, on va partir à la rencontre de toutes ces entreprises françaises qui souhaitent participer à l'effort de guerre, qui se battent, qui réinventent leur production pour produire des masques, des gels, enfin voilà, pour lutter contre ce coronavirus, Vincent.
Eh oui,
donc on va se balader comme ça pendant une bonne heure, une heure et demie. Et on va aller en Normandie, on va aller en Centre-Val-de-Loire, on va aller un peu partout, on va aller en Occitanie, voilà, elles sont nombreuses ces entreprises, notamment dans le textile, elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir contribuer elles aussi à ce combat contre le coronavirus.
Eh bien, ça fait plaisir, on va vous écouter parce que ça fait plaisir de sentir qu'il y en a qui ne baissent pas les bras dans des situations de crise. À tout de suite, Nathalie, on vous retrouve, c'est ça la France, dans quelques minutes. Mes amis, je vais prendre congé de vous pour une petite semaine, mais enfin, je ne suis pas loin de vous sur les réseaux sociaux et notamment ceux de Sud Radio. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir retrouvé un peu de cette âme paysanne qui est partout en France. Nos paysans qui sont vraiment à la manœuvre pour continuer de nous nourrir pendant ces périodes difficiles. La semaine prochaine, on va aller rendre visite à des pâtissiers et à des chocolatiers. Pourquoi ? Parce que Pâques approche et que Pâques, c'est le drame cette année, évidemment, pour tout le monde, chocolatiers et pâtissiers. Tous ces gens qui avaient fait des réserves de chocolat, des réserves de produits et qui ne pourront pas trouver de débouchés. Nos grands pâtissiers, nos grands chocolatiers, on les interrogera à savoir comment ils passent cette période de Pâques chez eux et comment ils vous alimentent de tutos, de petits trucs et d'astuces sur les réseaux sociaux pour faire la Pâques la plus belle possible et la plus chocolatée possible la semaine prochaine, Place du Marché. D'ici là, une très bonne semaine sur Sud Radio.
Sud Radio, Place du Marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.